Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, c'est le titre en forme d'oxymoron du livre de l'historien Ivan Jablonka, un livre qui tente de retracer l'existence d'Idessa et Mathès Jablonka, les grands-parents paternels de l'auteur, qu'il n'a pas connus puisqu'ils sont morts assassinés à Auschwitz. Un livre comme une enquête littéraire dans les pas des écrits de Georges Perec et de Patrick Modiano. Un livre qui sait céder à l'empathie, mais jamais aux exigences de l'historien qui sait chercher, fouiller les archives, écumer les registres et lire entre les lignes administratives les détails de vies oubliées. Un livre qui nous fait traverser les shtetls de Pologne, qui nous mène aux belles villes des années 40 jusqu'à Auschwitz-Birkenau et nous fait goûter aux idéaux communistes des années 30, aux stratégies de fuite et de survie des immigrés clandestins, aux solidarités et aux trahisons, et au sacrifice avant de redémarrer d'un village de Basse-Bretagne où le père du héros et sa sœur ont trouvé refuge. Avec nous pour en parler, l'auteur de ce livre, Ivan Jablonka, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, donc vous êtes historien, vous avez travaillé sur les pupilles de la nation, sur les enfants déracinés de la Réunion, pour être implantés dans la Creuse. Quel fil tissez-vous entre ces ouvrages et ce livre historien de l'enfance peut-être, alors historien des abandonnés ?
Ce qui m'a intéressé, je crois, c'est l'expression d'une souffrance et la difficulté que l'historien a à la percevoir. Parce que la souffrance ne se lit jamais dans les archives, il faut un petit peu lire entre les lignes. Et le point commun peut-être de toutes mes recherches, c'est cette souffrance, naître sans famille, être abandonné à un très jeune âge, être entraîné dans une migration autoritaire dans le cas des enfants de la DAS de La Réunion, ou dans ce cas, être assassiné à la fleur de l'âge. Mes grands-parents ont été assassinés respectivement à 28 et 35 ans, ce qui fait qu'ils sont d'ailleurs plus jeunes que moi par un bizarre retournement de génération. Je crois que cette souffrance tue. Difficile à dire et à retrouver, c'est un peu un des fils directeurs de mon travail. Et puis il y a peut-être aussi la question de l'abandon, puisque vous avez dit que j'ai travaillé sur les enfants abandonnés, les pupilles de l'État ou les pupilles de la nation dont les parents ont été déportés. Et d'une certaine manière, cette histoire des grands-parents que je n'ai pas eue, c'est aussi une histoire d'abandon. Pourquoi ? Parce que mes grands-parents, quand ils ont été arrêtés en 1943 dans un taudis du 20e arrondissement de Paris, ont décidé de laisser derrière eux leurs deux enfants, qui avaient à l'époque 3 et 4 ans, c'était des enfants en bas âge, et ils ont décidé de ne pas les emmener avec eux pour une destination inconnue à l'époque, et c'est une forme d'abandon, alors c'est un abandon en forme de sauvetage et d'amour.
Oui, vous dites d'ailleurs dans votre livre, à partir de quel niveau de danger choisit-on de ne pas emmener ses enfants avec soi pour une destination inconnue ?
Voilà, c'est une question que je pose aux archives, que je pose au passé, mais que je pose à tout le monde. À partir de quand on n'emmène pas avec soi ces jeunes enfants en bas âge, sachant qu'on va partir pour une destination inconnue. Alors j'ai un petit peu réfléchi en travaillant sur des archives et puis d'autres témoignages, par exemple le journal d'Hélène Baird. Je me suis demandé ce que des juifs étrangers à Paris en 1943 pouvaient savoir de ce qui les attendait. Les sources sont très divergentes à ce sujet. Par exemple, certains disent qu'à Drancy, en 1942, on se doutait que les déportations n'auguraient rien de bon, mais que personne pouvait imaginer qu'on mettrait à mort des vieillards, des enfants. Bon, quand je lis les archives, et en particulier la dernière lettre que mes grands-parents ont envoyée de Drancy, moi je pense qu'ils savaient. Je pense qu'ils savaient ce qui les attendait. Alors bien sûr, pas dans l'horreur technique de l'assassinat dans une chambre à gaz ou la mort par épuisement dans un camp de concentration. Bon. Mais je pense qu'ils savaient que là où on les enverrait, il n'y avait plus de vie, plus de joie, plus d'avenir, plus d'enfants. Et ça se lit dans leur dernière lettre qu'ils ont envoyée de Drancy. C'est une lettre tragique que j'ai du mal à lire, d'ailleurs que je lis rarement parce qu'elle est dure. Elle est dure mais je crois qu'elle exprime cette lucidité de gens qui disent adieu au monde.
Oui, et qui se disent en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas sûr de revenir. Ça se lit très clairement dans cette lettre, effectivement.
Oui, et puis dans cette lettre, ils disent adieu à leurs enfants. Ils disent « nous vous avons laissés comme de petits orphelins ». Bon, je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire en 1943 quand on dit à ses propres enfants qu'on les laisse comme des petits orphelins? Bon, maintenant il est très difficile d'en savoir davantage, mais le travail de l'historien c'est aussi de faire des suppositions et des hypothèses du moment qu'elles sont étayées et qu'elles sont claires. C'est-à-dire qu'il y a un pacte avec le lecteur qui est de dire « je fais une hypothèse, en tant que lecteur rationnel, voilà ce que je vous soumets, voilà ce que je pense », et puis d'une certaine manière c'est au lecteur de trancher. Mais il y a un pacte, je crois, entre l'historien et son lecteur.
Oui, parce qu'effectivement, Yvan Chablanca, quand on lit ce livre, on lit l'histoire de vos grands-parents, mais on lit aussi l'histoire collective, l'histoire de ces populations immigrées de l'Est qui sont arrivées de Pologne pour s'installer en France, juifs ou non-juifs, juifs là dans ce cas-là. Et on lit effectivement les parcours, les possibilités, les itinéraires, et on a vraiment tout le tableau d'une époque qui est retracé.
Ben, j'ai voulu faire un portrait de famille, c'est une évidence dans le titre, puisque c'est l'histoire de mes grands-parents. Mais au-delà de ce portrait de famille, j'ai aussi essayé de faire le portrait de toute une génération. Et c'est une génération, ce sont des Juifs qui sont nés en Europe de l'Est, en Pologne ou dans l'Empire des Tsars au début du XXe siècle, qui sont nés dans des shtetlers, c'est-à-dire des bourgades juives traditionnelles. Généralement, il y a un engagement assez rapidement à gauche, dans le Bund, en gros chez les socialistes juifs, ou dans le cas de mes grands-parents, au Parti communiste polonais. Dans la Pologne de Pilsudski, qui était un État autoritaire, ces militants de gauche étaient pourchassés. Donc mes grands-parents ont connu la prison. Et puis ensuite, c'est l'exil vers la France. Donc, bon, je me souviens d'avoir un petit peu discuté avec certains de mes amis quand je faisais ce livre. Et puis je leur disais, je retraçais un peu le parcours de mes grands-parents, shtetl, parti communiste, exil. Et puis je me souviens que certains de mes amis disaient, oui, bon, ben, comme mes grands-parents. Et au-delà de cette boutade, il y a une certaine vérité. C'est que le parcours de mes grands-parents est d'une certaine manière banal parce que des centaines et des milliers de personnes ont connu ce même parcours. Et puis en même temps, j'ai voulu un petit peu retracer le caractère particulier, à la fois normal et tragique, de leur existence.
Alors, ce qui est très clair aussi et passionnant dans ce livre, c'est de voir effectivement l'historien à l'œuvre. Vous savez où chercher, vous savez comment chercher, et vous êtes sûr que vous allez trouver quelque chose. Donc, on voit bien que l'un des aspects intéressants, c'est que finalement, quelqu'un d'inconnu laisse beaucoup de traces dans les archives, et vous savez comment trouver ces traces-là. Donc, soudain, émergent des dossiers d'archives, notamment le procès de Varsovie que vous avez évoqué. Donc, un dossier très épais, là, pour le coup.
Oui, alors c'est bon, l'historien a besoin d'une matière sur laquelle travailler, et cette matière, ce sont les archives. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des archives orales, c'est-à-dire tout bêtement des entretiens. Donc moi, j'ai rencontré plusieurs dizaines de témoins.
Vous avez beaucoup voyagé pour...
J'ai pas mal voyagé, oui. Je suis allé, j'ai voyagé en France, bien sûr, mais aussi en Pologne, en Israël, aux États-Unis, en Argentine, parce que ma famille, enfin les Jablanca, a été une famille un petit peu fracassée. C'est ce qui s'appelle en d'autres termes la diaspora. Ce qui fait que pour retrouver des témoins, direct ou indirect, bon, j'ai un peu pris l'avion et puis j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des archives orales dans notre jargon d'historien. Puis il y a bien sûr les archives imprimées ou manuscrites. Donc là, moi, j'ai fait... j'ai voyagé du reste parce que en Pologne, il y avait pas mal d'archives sur mes grands-parents et j'ai eu la joie de retrouver certaines archives qui permettent de retracer leur vie. Par exemple, le dossier pénitentiaire de mon grand-père, c'est-à-dire le dossier qui retrace son arrestation, son jugement et son incarcération dans la Pologne des années 30 parce qu'il était un activiste communiste. Et ça, c'est une archive d'abord très importante du point de vue du volume, puisque c'est presque 700 pages. Et en même temps, c'est émouvant parce qu'on voit des choses, on voit un petit peu la chair de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont il a vécu et puis dont ce cadre communiste a été réprimé. Alors par exemple, j'ai appris que dans telle prison polonaise en 1934, mon grand-père est privé de matelas, ce qui est une brimade assez importante après tout. Pourquoi ? Parce qu'il a crié à plusieurs reprises « Vive l'Union soviétique !» Donc cet irréductible, alors même qu'il était en prison, continuait à lutter en faveur de la révolution et de la glorieuse Union soviétique. D'une certaine manière, je pourrais dire que mon bonheur d'historien est fondé sur leur malheur, parce que plus des archives sont importantes, plus ça témoigne d'une vie douloureuse, difficile en particulier, parce que les archives expriment la répression de l'État.
Alors, vous retracez donc le parcours de ses grands-parents. On voit effectivement ce couple de communistes, de jeunes communistes, activistes, vous l'avez dit. Et ce que vous montrez bien, c'est aussi la façon dont ils sont communistes aussi pour rejeter, entre guillemets, la judéité, pour aspirer à l'universalisme. Et ça, c'est un élément qui est très important dans ce livre. C'est-à-dire que vous revenez à la fin de votre livre sur ces panneaux qui sont accrochés dans les... ces plaques qui sont accrochées dans les écoles, où on explique... Voilà, que ces personnes, les déportés ont été tués parce qu'ils étaient nés juifs. Et vous dites non, ils ne sont pas nés juifs. Il ne faut pas les enfermer là-dedans. C'est des gens qui aspiraient à l'universalisme.
Disons que dans cette génération de jeunes juifs marqués à gauche, en particulier auprès du Parti communiste, il y avait une violente... un violent rejet de ce qu'on appelait à l'époque la tradition, c'est-à-dire en fait l'orthodoxie, voire l'ultra-orthodoxie religieuse. Bon. Et de fait, il y a un certain nombre de témoignages qui montrent que ces jeunes juifs communistes se heurtaient violemment à la génération d'avant, c'est-à-dire tout simplement à leurs parents. Et de fait, mon grand-père a été élevé dans un milieu juif traditionnel, puisque son propre père, mon arrière-grand-père, tenait un mikvé, hein, ce bain rituel qui est assez important dans la vie des Shtetlers d'autrefois. Mais en même temps, il ne faut pas non plus trop figer les choses. Ce n'est pas d'un côté les jeunes qui sont communistes et puis les vieux qui sont orthodoxes. Parce qu'on pourrait un petit peu interpréter le communisme comme une espèce de mort et de renaissance du judaïsme. D'ailleurs, il y a des parallèles, un parallélisme qui serait intéressant. Par exemple, les communistes, parce qu'ils étaient illégaux et clandestins, avaient une vie qui était réglée par des interdits, des commandements très stricts. Leur vie était un petit peu corsetée par un certain nombre de règles et de contraintes, après tout comme certains juifs religieux.
Et puis l'étude.
Et puis il y avait aussi le goût de l'étude, une espèce d'appétit de savoir et d'étude qui faisait presque de certains groupuscules communistes des espèces de yeshiva marxistes, pour dire une chose un petit peu bizarre. Mais je crois qu'il y a quelque chose de vrai, au-delà de la bizarrerie de ce que je dis, il y a quelque chose de vrai, c'est que ces jeunes avaient tiré de leurs aïeux, de leur père, une forme de radicalité, une forme d'intransigeance, de goût de l'étude, et puis tout simplement du messianisme. La différence avec les anciens, c'est que les jeunes communistes veulent changer le monde et faire advenir une société heureuse ici-bas. Et en ce sens, il y a bien sûr quelque chose qui est radicalement profane dans leur engagement. Mais en tout cas, il y a des points de comparaison.
Alors votre livre déroule donc le parcours de ce couple. Donc ils arrivent en France, ils s'installent, ils tentent leur chance, ils fondent une famille, ils vivent mal, pauvrement, avec assez peu d'horizon. Et vous racontez la façon dont finalement... de jeunes gens flamboyants, engagés, militants, ils sont obligés de se plier à une vie terne, à une vie dure.
En arrivant à Paris, ils sont pas arrivés au pays des droits de l'homme. Ils sont plutôt arrivés dans un pays qui est très dur pour les étrangers, d'autant plus que mes grands-parents, comme des milliers d'autres, étaient clandestins, sans papier, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, à la fin des années 30, on voit deux cadres flamboyants, un petit peu, deux cadres du Parti communiste polonais qui arrivent dans un pays où la vie quotidienne est difficile, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce qu'il leur naît deux enfants et que les enfants, il faut les élever, il faut les nourrir, etc. Et ils ont une vie un petit peu de clandestin. Et cette fois, ils ne sont plus pourchassés en tant que communistes parce qu'ils veulent faire la révolution, mais ils sont pourchassés en tant que sans-papiers, en tant qu'étrangers clandestins, indésirables, comme on disait dans les années 30. Et là, je pense qu'il y a un changement d'expérience qui est presque traumatisant, parce qu'ils ne sont plus pourchassés parce qu'ils sont des combattants contre le fascisme dans une lutte aux dimensions de la planète, mais désormais ils sont pourchassés par des bureaucraties grises parce qu'ils n'ont pas de papier, de carte de séjour et parce qu'on veut les expulser.
Et vous montrez d'ailleurs à ce moment-là, Yvan Jablonka, comment finalement la Troisième République, avant Vichy, préparait déjà le terrain, on pourrait dire, du régime vichiste, avec ce fichier de la Sûreté nationale qui, voilà, est un petit peu la promesse de ce que Vichy va mettre en place.
En effet, mes grands-parents ont été fichés comme des centaines de milliers d'autres personnes parce qu'ils étaient donc indésirables. Et le ministère de l'Intérieur alimentait un énorme fichier qui s'appelle le fichier de la Sûreté nationale et qui permet effectivement d'avoir un œil sur un certain nombre de suspects, entre guillemets. Et donc mes grands-parents, comme des centaines de milliers d'autres étrangers et indésirables, figurent dans ce fichier. Et par ailleurs, on peut voir qu'à la fin de la Troisième République, il y a un très net durcissement de la législation qui devient anti-étranger et même anti-naturalisé. Et de même, un certain nombre d'initiatives bureaucratiques sont mises en œuvre. Donc, par exemple, ce fichier, un de ces fichiers est géré par un fonctionnaire plein d'avenir qui s'appelle René Bousquet. Donc je pense qu'il y a un Vichy avant Vichy et qu'il fermente dans la République à partir de 1938.
Alors vous faites aussi sonner des mots qui résonnent aujourd'hui particulièrement quand on parle de reconduite à la frontière, d'arrêté d'expulsion, de visa. Votre livre est aussi ancré dans le présent, Yvan Jablonka.
Bon, j'ai fait un jeu d'anachronisme assumé quand je parle de sans-papiers. À un moment, je dis les sans-papiers juifs de ma famille. J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, on pourrait croire que les sans-papiers, ce sont des Turcs ou des Chinois. Bon, il se trouve que dans les années 30, les sans-papiers, c'était des juifs polonais. C'était notre famille, j'ai envie de dire. Au-delà de ça, c'est vrai que mon étude est ancrée dans le présent, et je crois que c'est le cas de toute étude d'histoire, parce que l'historien est un homme ou une femme qui vit aujourd'hui, dans le présent, et qui a ses liens de filiation, petit-fils par exemple, ou ses engagements. Ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à l'objectivité, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais il faut assumer la part de présent qu'il y a dans notre recherche. Et c'est aussi pour ça que dans mon livre, je dis « je ». Je dis « je », c'est le « je » du petit-fils, c'est le « je » de l'être humain qui est ému quand il découvre le parcours tragique de ses grands-parents, et puis c'est aussi le « je » de l'enquêteur. J'essaye pas à pas de montrer à mon lecteur comment ça marche l'histoire, pour le dire de manière un peu familière. J'essaye d'inviter le lecteur dans l'atelier de l'historien. J'essaye de lui montrer comment on recherche, comment on trouve, comment on ne trouve pas, comment on est déçu, comment on est content, comment on est fier, comment on renonce. Et ça fait partie un petit peu d'une enquête au présent que j'ai voulu montrer dans toute sa banalité et puis dans toute sa joie, parce qu'il y a aussi une joie de l'étude, une fierté, un plaisir des archives.
Oui, puis il y a un plaisir à remettre vos pas dans ceux de ces grands-parents que vous n'avez pas connus. Vous habitez le même quartier, vous le dites dans le livre, et vous retrouvez les rues, vous retrouvez les ruelles, vous cherchez les boutiques, vous regardez les numéros des rues, vous refaites vivre l'immeuble dans lequel ils habitaient. Et il y a effectivement, on sent effectivement une joie, une émotion à remettre vos pas comme ça dans les pas de ceux qui étaient là avant vous.
Pour faire ce livre, j'ai été historien, j'ai été petit-fils et puis j'ai été promeneur. Je me suis promené parce que, bon, je suis allé en Pologne, bien sûr, dans le shtetl d'où on vient, mais je me suis aussi promené dans les rues du 20e arrondissement entre Belleville et Ménilmontant, ces rues que mes grands-parents ont arpentées. Alors, c'est vrai que j'habite dans ce quartier. C'est un hasard, drôle de hasard, mais c'est peut-être pas un hasard au fond. Et en tout cas, j'habite à quelques rues de là où mes grands-parents ont vécu et où ont été arrêtés. Ce qui fait que ce quartier est pour moi à la fois un quartier de vie et un quartier de mort. C'est le quartier où ils sont sortis du monde, où ils ont été arrêtés en février 1943 et ils ont été mis à mort dans les semaines ou les mois qui ont suivi. Donc ce passage de Pretoria où ils ont été arrêtés un petit matin de février 1943, j'y passe quasiment, je passe devant tous les jours, et c'est à la fois un lieu de mémoire familiale pour moi et puis un lieu de réflexion, parce qu'aujourd'hui il y a toute une activité parisienne tout à fait normale, et en même temps c'est un lieu où des gens ont vécu et sont morts.
Oui, vous dites d'ailleurs, vous prolongez cette réflexion dans votre livre en disant, voilà, comment est-ce que finalement je peux aimer ce pays qui est aussi le pays qui a tué mes grands-parents. Vous dites, voilà, vous êtes aussi dans ces questions-là.
Alors, il faut pas non plus... Il faut être précis dans les termes. Oui, le pays qui a assassiné mes grands-parents et des millions d'autres juifs, c'est l'Allemagne. Et c'est un régime, le nazisme. Bon, maintenant, il est évident, vous avez raison de le souligner, que la France a été complice de cette machine criminelle et de ce pays dont l'idéologie était aussi criminelle, et qu'en ce sens, c'est une question que je me pose, mais c'est une question que nous sommes beaucoup à nous poser. comment vivre dans un pays, dans ce pays qui a envoyé vos proches, vos parents, vos grands-parents à la mort. C'est une question que chacun doit se poser dans l'intimité de sa conscience. Bon, moi je fais, c'est sûr qu'il y a une différence entre l'idée qu'on peut se faire de la France et ce que la fin de la Troisième République et bien sûr le régime de Vichy était à cette époque. Je pense qu'on peut bien sûr faire la part des choses, mais c'est une question qui reste ouverte et je crois que tout juif français, surtout quand ses grands-parents viennent de Pologne, c'est une question qu'on doit et qu'on peut en tout cas se poser sans nécessairement devoir y répondre de manière ferme. Après tout, vivre en France et parler le français, c'est déjà une réponse.
Alors il y a ce moment dans le livre, un moment qui est très poignant, un moment qui rattache ce livre effectivement à vos travaux sur l'enfance abandonnée, le moment de l'arrestation de vos grands-parents que vous avez évoqué, et puis le moment où ils décident consciemment de laisser leurs enfants derrière eux, leurs enfants qu'ils faisaient dormir chez un voisin au cas où.
Alors on est au matin du 25 février 1943 et à la suite d'une décision de police que j'essaye de retracer, des policiers de la police municipale du 20e arrondissement de Paris débarquent dans le taudis où mes grands-parents se cachent depuis la rafle du Veldiv, à laquelle ils ont échappé par miracle, et les policiers embarquent un certain nombre de voisins et Mathès et Idessa Jablonka, mes grands-parents. Et là, c'est vrai qu'ils décident de laisser leurs enfants derrière eux, acte à la fois d'amour et de négation, de sauvetage et d'abandon, enfin acte héroïque d'une certaine manière, héroïque dans l'abnégation. Abnégation de gens qui se savent sinon condamnés, du moins en très grave danger. Et puis un autre moment un petit peu émouvant, mais c'est un moment qui transparaît au travers des archives, c'est le moment où ma grand-mère est interrogée par un fonctionnaire de police de la préfecture de police de Paris, et sa fiche porte les lettres suivantes M0E. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ces initiales un petit peu sibyllines ? Ça veut dire marié, zéro enfant. M0E. Marié, zéro enfant. Ça veut dire que ma grand-mère déclare aux policiers qu'elle est mariée mais qu'elle n'a pas d'enfant. Manière d'abandonner une deuxième fois ses enfants, évidemment, pour les sauver. Parce qu'elle est à la préfecture de police de Paris et les fonctionnaires de police pourraient lui dire « Bon, ben, si vous avez des enfants, on va les chercher. » Et justement, c'est ce deuxième acte d'abandon héroïque que ma grand-mère accomplit, et c'est ce qui a permis à mon père et à ma tante d'avoir la vie sauve, grâce aussi à d'autres réseaux de solidarité et d'entraide.
Alors votre livre ensuite emmène le lecteur à Auschwitz-Birkenau, où vous essayez d'imaginer ce qu'a pu être la fin de vos grands-parents, où vous essayez de comprendre ce qu'a pu éventuellement être le moment où votre grand-père Mathès a participé au Sonderkommando, où il a dû être affecté à ce Sonderkommando. Et vous dites à la fin du livre que vous êtes historien pour réparer le monde. Et vous dites aussi, vous faites un constat d'échec, mais je ne sais rien, mais j'ai quand même fait au mieux.
J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Maintenant, je dois avouer que je ne sais pas exactement comment mes grands-parents sont morts. Alors bien sûr, ils sont morts à Auschwitz, mais ça ne veut pas dire grand-chose quand on sait un petit peu comment fonctionnait la mécanique de mise à mort. C'est la raison pour laquelle je dis qu'ils ont été déportés à Auschwitz II Birkenau, le camp d'extermination proprement parlé. Et c'est important de faire cette distinction, parce que sinon, on mélange un petit peu tout. Par exemple, Primo Levi a été déporté à Auschwitz, mais c'est dans le camp de concentration à proprement parler, c'est-à-dire Auschwitz III Monowitz. Et c'était des conditions qui étaient évidemment terribles, et le taux de mortalité était immense, énorme. Enfin, ce n'était pas un centre de mise à mort comme à Birkenau. Donc, mes grands-parents sont arrivés de Drancy par le convoi 49. Et là, j'ai un petit peu du mal à retrouver leurs traces. Ça fait partie un petit peu des drames de l'historien. Si j'avais une tombe familiale, je ne saurais même pas quelle année graver pour clôturer leur vie. Bon, bien sûr, je n'ai pas de tombe familiale. Mais j'essaye de comprendre un petit peu ce qu'a pu être leur destin à partir du début mars 1943, dès lors qu'ils sont débarqués de ce convoi 49. Je ne sais pas si ma grand-mère a été gazée immédiatement. J'ai interrogé un certain nombre de témoins qui m'ont dit que elle pouvait avoir été aussi bien sélectionnée que gazée immédiatement, surtout si elle a été blessée lors de la rafle, comme on le pense. Et quant à mon grand-père, J'ai la certitude, enfin la quasi-certitude, c'est toujours difficile de parler en termes de certitude, j'ai la quasi-certitude qu'il a été versé dans le Sonderkommando, ce terrible commando spécial de déportés juifs qui faisait fonctionner les chambres à gaz une fois qu'elles avaient servi à tuer des gens. Et il a travaillé quelques mois certainement dans ce Sonderkommando. Si, jusqu'à la révolte d'octobre 44, je n'en sais rien. C'est possible que non. Et là, on est bien sûr dans ce que j'appelais les hypothèses raisonner.
Merci beaucoup. Je rappelle, Yvan Jablonka, que votre livre « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu » vient de paraître aux éditions du Seuil. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.